richesse, la commune, aimée, c'est la porte.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Et tout de suite, on retrouve le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Et prof Patrick, il n'est pas seul à nouveau.
Toujours avec Geneviève pour la deuxième partie de notre crossover prof Patrick et histoire de femme, femme d'histoire. Bonjour Geneviève.
Bonjour à tous, bonjour Patrick, bonjour Mathieu.
Bonjour Geneviève.
Donc la semaine dernière, on a parlé avec Geneviève de la question des perturbateurs endocriniens et du travail fondateur de Rachel Carson, donc dans les années 60, pour faire découvrir ce problème au monde ébahi et avoir une influence majeure sur les premières réglementations, interdiction du DDT dans les années 70, concernant donc cet immense problème que sont les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances chimiques qui viennent dérégler le corps humain, dérégler le système endocrinien. Alors un point intéressant, c'est que Rachel Carson avait une approche que je dirais holistique, une approche globale. Et là, c'est vraiment typique des écologues, hein, des scientifiques de l'écologie. Dans son livre donc, « Printemps silencieux » en 62, elle nous a permis, par cette approche globale, de comprendre comment ces perturbateurs endocriniens déréglaient complètement le vivant, et pas uniquement les êtres humains. Et donc, de comprendre la toxicité des pesticides, du DDT notamment à l'époque, sur le système endocrinien. On va aujourd'hui parler d'une deuxième chercheuse qui, alors, on se déplace dans les années 90. Hein, on a passé quelques deux décennies. Et c'est une autre scientifique américaine qui est une femme tout aussi atypique que Rachel Carson. Elle s'appelle Theo Colborne, prénom un peu masculin, mais c'est bien une femme, Theo Colborne. C'était une pharmacienne au départ. Elle est née en 1927. Elle a passé un doctorat en zoologie, devinez quoi, après 50 ans. Encore une femme originale. Mmh. Elle a arrêté ses
après
études, elle a repris ses études après 50 ans. Et elle commence, zoologie, c'est son domaine, à s'intéresser à la baisse de fécondité de certains animaux sauvages dans la région des Grands Lacs. Et elle prend conscience que, ils ont été exposés massivement à des substances chimiques, les PCB notamment, et que ça pourrait bien être l'origine du problème.
Attends, 30 secondes, PCB.
T'essaies de me coincer, Geneviève, c'est gentil, merci.
Ouais, je sais,
alors,
c'est mon côté candide. Hein.
Polychlorobisphényl, voilà.
Ah, ça m'arrange
mot
bien, tiens.
Triple, j'ai gagné, tu as perdu. Et donc, elle va s'intéresser aux malformations congénitales qui touchent tout un certain nombre d'enfants dont les mères ont suivi un traitement médicamenteux.
Oh.
Le distilbène et la thalidomide.
Ça me dit vaguement quelque chose.
Il y a des perturbateurs endocriniens dans certains médicaments. Elle va compiler des milliers d'études. Elle va former un réseau de scientifiques. Un peu la même méthode que Rachel Carson n'avait pas trop dit. Elle forme un réseau de scientifiques dans des domaines de recherche complémentaires comme l'endocrinologie, la toxicologie, l'écologie, la pharmacologie, l'anthropologie, la biologie du cancer, la psychologie, la zoologie, etc. Donc vraiment un travail pluridisciplinaire, un travail en équipe qui va se faire sur plusieurs années pour compiler vraiment des informations de tous ordres pour avoir une image vraiment globale de ce problème. Et donc, c'est grâce à ça qu'elle va rassembler, tant pour la santé humaine que pour la santé des êtres vivants, un nombre de données gigantesques. Et elle va identifier que les problèmes répondent à un mécanisme qui est le mécanisme de la perturbation endocrinienne. D'accord. Donc, alors je ne vais pas re-exposer. Dans la première chronique, j'en ai parlé un petit peu de ces perturbateurs endocriniens. À savoir, notez quand même que les effets sont destructeurs et les effets se transmettent à la descendance des perturbateurs.
Donc ça a une influence en fait sur la génétique transmise.
Alors ne me demande pas comment, je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, ça se transmet à la descendance et ça, c'est terrible. En juillet 91, elle lance un appel, l'appel de Wingspread, qui rassemble 21 scientifiques donc, de toutes ces disciplines que j'ai citées et qui ont partagé leurs connaissances, un appel pour pousser le monde politique à lutter plus efficacement sur la question des perturbateurs endocriniens. Et ce travail de fond qu'elle fait avec ses scientifiques va durer toutes les années 90, qui va amener en 98, donc 7 ans après, à la publication du Wingspread Statement. Donc c'est vraiment un document scientifique à destination des scientifiques et des politiques.
Voilà. D'accord. Pas grand public, mais en tout cas avec une vraie volonté engagée.
Deux ans avant, elle a traduit ça dans un langage plus compréhensible dans un livre qu'elle a appelé « Our Stolen Future », notre futur qui nous a été volé. Et là, elle fait une synthèse de tout son travail, mais pour le grand public. Donc un travail à la fois côté politique, scientifique et grand public. Et elle ira jusqu'au Congrès américain pour défendre la nécessité de reconnaître plus à fond le rôle terrible des perturbateurs endocriniens.
Et quel accueil il y reçoit?
Comme d'habitude, une bonne partie du personnel politique est dans les mains des lobbies. que tu as cité dans la chronique la semaine dernière, donc résiste, et puis une autre partie va petit à petit admettre ça, et c'est une lutte d'influence, hein, comme d'habitude dans le monde politique. La grande difficulté, je l'avais cité au début de la première chronique, c'est cette histoire de la pensée traditionnelle de la toxicologie qui dit, en fait, la dose fait le poison, c'est-à-dire qu'en fait, à faible dose, un produit chimique n'est pas dangereux. Il faut des fortes doses. Oui, mais dans les perturbateurs endocriniens, comme je l'avais expliqué, ça ne marche pas. Fonctionnent, système clé-serrure, c'est ça, fonctionne immédiatement, même à très faible dose. Et ça, c'est un énorme travail aussi de résistance, un petit peu avec le monde scientifique également, hein, qui s'accroche un petit peu.
Qui s'accroche à cet adage qui remonte à la Renaissance, hein, quand même. Hein.
Tout à fait, ça remonte très très loin, cette histoire-là. Ouais.
Ça a été fondateur de toute la science moderne.
Oui. Alors, comme tu l'as dit la semaine dernière pour Rachel Carson, ça va être rebelote. Les industriels, ils vont faire quoi? Ils vont massivement financer des recherches dans le but de contredire les travaux de Theo Kolbern et de ses collègues. Ils vont jouer, alors ça, c'est intéressant parce que c'est encore vrai aujourd'hui, sur la question de la nature de la preuve et de la charge de la preuve. C'est-à-dire, la stratégie souvent des industriels, c'est d'exiger des niveaux de preuve scientifiques dont on sait qu'ils sont impossibles à atteindre. Et comme ça, c'est bon. Ils peuvent conclure, on n'a pas la preuve, donc on peut continuer notre business. Et ça, c'est une stratégie qui est systématique. On exige des niveaux de preuve impossibles à atteindre. On ne peut pas avoir la preuve absolue. D'accord ? Donc, c'est l'argument en disant la preuve pour l'humain de la toxicité n'est pas apportée, donc on ne réglemente pas. Dans les débats actuels, au niveau Union européenne, France, c'est la même chose encore. Bon, 2012, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, reconnaît que les perturbateurs endocriniens chez les humains sont une évidence, ne sont plus une hypothèse. Donc, il y a une avancée. Theo Kolbern va prendre sa retraite à 76 ans. Et sa retraite, elle ne va pas s'ennuyer pour autant, puisqu'elle va créer une ONG à but non lucratif. Alors, The Endocrine, je ne sais pas trop comment on dit, Disruption Exchange. Bon, bref, un nom imprononçable. Mais ce n'est pas grave, une ONG qui a pour but d'informer le plus grand nombre sur les problèmes de santé publique créés par les perturbateurs endocriniens. Donc, elle va encore une fois continuer à rassembler des études, des centaines d'études sur, tiens, les fameux bisphénols. On en parle beaucoup des bisphénols. Contenus dans tout un tas de produits plastiques. Elle va publier des listes de substances chimiques qui causent des perturbations endocriniennes. Bref, elle continue son immense travail de fond et elle décède en 2014.
D'accord. Donc, telle une petite fourmi, elle a réussi à compiler des preuves.
Ouais.
Alors, certes, pas à hauteur acceptable pour les lobbies, mais en tout cas indiscutable pour tout scientifique.
On peut finir en se posant la question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Qu'en est-il de ces fameux perturbateurs?
Alors, tout le monde a pris conscience de la dangerosité des perturbateurs endocriniens, c'est clair. Pour autant, on n'avance pas très très vite, parce qu'on pourrait dire qu'on est encore au stade des études. L'ANSES, qui est l'organisme officiel qui régit toutes les questions des produits chimiques et de leurs autorisations, a publié une liste de 906 substances à étudier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à étudier. Vous voyez, on n'avance pas vite quand même. Alors, mise en place d'obligations d'information. Il y a tout un tas. Il y a une loi en 2020 qui permet d'accentuer cette obligation d'information du grand public sur la présence des perturbateurs endocriniens. Au niveau du Code du travail, à ce jour, il n'y a aucun texte spécifique qui s'appliquerait aux perturbateurs endocriniens. Donc, on en reste aux textes généraux, en quelque sorte, sur la prévention, sur les règles, sur les agents chimiques cancérogènes, mutagènes, toxiques, etc. Mais on voit que ça avance lentement. Au niveau européen, on n'arrive pas encore à se mettre d'accord sur une définition commune de la notion de perturbateur endocrinien.
Juste
la définition. Okay. Ouais. Donc ça, c'est toujours, un bon moyen, encore une fois, pour passer entre les gouttes du côté des industriels, en quelque sorte. Un élément important commence à être mieux connu scientifiquement et mieux accepté, la notion d'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est l'effet de plusieurs substances combinées entre elles. On ne trouve pas individuellement un effet nocif de chaque substance individuellement, mais ensemble, on commence à trouver un effet. Ça fait longtemps qu'on le sait intuitivement, mais scientifiquement, ça commence à être un peu plus solidement établi. Et c'est compliqué, l'effet cocktail, parce qu'aller définir les effets cocktails de tel et tel produit, il faut examiner tous les cocktails possibles, en quelque sorte. Donc, c'est assez complexe. La grande difficulté, c'est que les perturbateurs endocriniens, je vais finir par, en plombant tout le monde, parce que c'est un peu mon style, hein. Mathieu il le sait, c'est pour ça que
j'ai complètement déprimé,
je suis une psychothérapie à cause de moi, mais ça fait rien, je vais le faire. Les perturbateurs endocriniens sont partout dans notre environnement, on en mange, on les inhale, on les touche, le bisphénol A il est présent dans tous les plastiques alimentaires, les phtalates sont présents dans les cosmétiques, qui contiennent des microplastiques, et il y a les phtalates dedans. L'alimentation ultra transformée, c'est tous les plats préparés de l'industrie agroalimentaire. Eh bien, il y a des perturbateurs endocriniens. Dans nos vieilles peintures d'autrefois, il y a du plomb.
Oui. C'est pour ça qu'elles tiennent aussi bien.
Ouais. Il y a, dans les fruits et légumes, il y a des résidus de pesticides. Bref, il y en a de partout. Donc, il y a du boulot encore. Geneviève, remonte le moral à tout le monde.
Ouais, écoute, je vais essayer. Hein. D'une manière très, très claire, très simple. En fait, faites attention à ce que vous consommez.
Renseignez-vous.
Voilà, j'étais en train de réfléchir pendant que tu nous énonçais tous ces effets terribles. Il existe des applis indépendantes où on peut tester les cosmétiques, les produits alimentaires, etc., que l'on consomme, de façon à juger par soi-même. Et c'est important d'avoir cette idée de jauge. Ouais. C'est-à-dire que vous avez certains produits qui vont apparaître avec une note de 50 ou 60 sur 100, avec des produits qui sont labellisés comme étant à risque modéré. Mm-hmm. Mais encore une fois, tu l'as bien signalé, il y a un effet cocktail. Donc,
exactement.
Est-ce que je suis OK pour consommer un produit complètement vert, excellent, ou est-ce qu'au contraire, j'accepte que tel produit était peut-être un peu moins bon, mais je vais faire attention à autre chose. Enfin, voilà, en clair, la vigilance... Ouais. Nous sommes ce que nous mangeons.
Exigeants sur l'information.
Et soyons exigeants. Ouais. Voilà.
On en a terminé, Mathieu.
Merci à tous les deux. À très bientôt.
À plus.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.